bonjour, bonjour à tous, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver sur nos antennes aujourd'hui pour parler d'un événement majeur qui place la nature au cœur de l'adaptation de nos territoires. Avec moi en studio, Stéphanie Guettorande, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du Salon de la biodiversité et du génie écologique qui revient pour une deuxième édition à la Porte de Versailles du 18 au 20 novembre prochain. Et à distance, on accueille Patrice Valentin, président de l'UPGE, l'Union professionnelle du génie écologique, partenaire fondateur de ce salon. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Et je précise que vous êtes un entrepreneur en génie écologique depuis 2002 et vous avez fondé l'UPGE en 2008 justement pour structurer cette filière qui à l'époque était émergente. Alors Stéphanie, ce salon se tient en parallèle du Salon des maires et des collectivités locales qui rassemble plus de 60 000 visiteurs. Un contexte idéal donc pour parler biodiversité avec les décideurs du territoire. Première question. En novembre 2024, l'année dernière, vous lanciez la toute première édition de ce salon de la biodiversité et du génie écologique. Comment s'est passée cette première expérience? Est-ce que vous pouvez nous présenter l'événement?
Oui, alors l'événement, nous avons décidé avec Patrice, après de nombreux échanges, parce qu'avec Patrice on travaille ensemble depuis de nombreuses années, maintenant depuis la création d'ailleurs de l'UPGE, nous avons effectivement souhaité créer un événement dédié à cette thématique et nous l'avons positionné au sein du Salon des maires, puisque les territoires sont finalement le lieu privilégié de déploiement des solutions. Ce sont les territoires qui sont au premier chef, en tout cas concernés par ces thématiques, déjà parce que ils en ont la responsabilité de la préservation de notre environnement et de notre biodiversité, parce que ce sont aussi eux qui subissent le réchauffement climatique, c'est eux qui ont la main sur les nécessaires actions, investissements pour l'adaptation et l'atténuation. Donc ça nous a semblé assez évident de lancer cet événement, en tout cas en concomitance avec le Salon des maires. C'est également le lieu, le Salon des maires, où vous allez retrouver les entreprises qui aménagent, les aménageurs, les constructeurs, les entreprises de travaux publics qui justement sont aussi celles qui développent les projets avec les collectivités et qui doivent intégrer avec les collectivités au niveau des cahiers des charges, au niveau des solutions qu'elles présentent, des techniques de plus largement, notamment le génie écologique, mais Patrice en parlera très bien, et c'est également elles qui doivent intégrer très en amont des projets de la biodiversité. Trop souvent, la biodiversité finalement subissait les investissements et on cherchait ensuite à compenser, à restaurer, et aujourd'hui ce que ce salon veut mettre en avant, c'est que cette thématique, elle doit être en amont des projets, en amont des réflexions et plus en aval, et c'est pour ça effectivement qu'on l'a mis à l'entrée du Salon des maires. Donc l'ensemble des visiteurs du salon, secteur public, secteur privé confondu, passent par le Salon de la biodiversité. Ce que nous avons pu observer l'année dernière, c'est qu'ils ne font pas que le traverser, ils se sont largement arrêtés. Ils ont participé, contribué, et du coup on a pu effectivement se féliciter avec Patrice d'un exercice réussi, puisque voilà, ça a permis un ancrage très fort maintenant de cette thématique au sein du salon.
Alors pour cette deuxième édition, quelles sont les nouveautés, quelles sont les ambitions, Stéphanie, qu'est-ce qui va changer ou se renforcer par rapport à 2024?
En 2024, on a posé le sujet, on l'a présenté, et là, en 2025, on va aller encore plus loin. On accueille plus d'acteurs. On est effectivement à la fois de la préservation à la restauration, mais ce que je vous disais sur les enjeux d'adaptation, donc on va avoir 20% d'acteurs en plus pour présenter des solutions. On va avoir un programme des conférences assez riche, voilà, qui va à la fois aborder le sujet, enfin débattre du sujet des nécessaires investissements dans une période où effectivement on parle beaucoup budget et investissement, donc la part des budgets dédiés à la biodiversité sera un sujet important. Et puis on va également donner la parole à des experts, à des acteurs qui ont monté des projets, aussi des collectivités qui vont pouvoir partager des initiatives et inspirer, nous l'espérons, beaucoup d'autres collectivités dans ce sens, et valoriser l'innovation aussi qui est très présente sur ce salon. On va aussi parler du vivant. Récemment, Jeanne Goudal nous a quittés, et le sujet de la biodiversité, la préservation, donc on va parler de la nature dans toute sa globalité. Mais également effectivement de la façon dont chacun peut contribuer, collectivités, entreprises et habitants, pour justement être très conscient de la chance que nous avons d'avoir une nature importante et de la nécessité de la préserver et d'investir dans ce sens.
Alors Patrice, est-ce que vous pourriez nous parler plus en détail justement du rôle de l'UPGE, donc de l'Union professionnelle du génie écologique, et peut-être pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément, qu'est-ce que le génie écologique exactement, en quoi est-ce différent du paysage ou de l'environnement ?
Alors, le génie écologique, la définition, c'est assurer la résilience des écosystèmes. Donc, c'est en fait que les écosystèmes fonctionnent bien, et donc il ne s'agit pas de préserver quelques espèces plus ou moins protégées, mais bien d'avoir des fonctionnalités. Pourquoi ? Parce que nous ne vivons que par notre relation avec les autres espèces. Ça commence d'ailleurs par les bactéries que nous avons dans les intestins, mais c'est aussi la chaîne alimentaire, c'est l'oxygène, c'est le cycle de l'eau, la régulation des climats, etc., etc. Donc en fait, on est bien sur une logique de régulation des fonctionnalités du territoire. Donc le génie écologique est devenu, enfin a commencé à vraiment apparaître au début des années 2000, parce qu'on s'est rendu compte, non pas simplement de l'érosion de la biodiversité, mais des dysfonctionnements des écosystèmes avec des conséquences dramatiques. Le cycle de l'eau, qui est d'actualité malheureusement, étant effectivement une des conséquences les plus visibles. Le génie écologique, donc l'union professionnelle, a été créée un peu dans ce cadre-là. Et alors la différence par rapport au paysage, eh bien c'est fondamental parce que le paysage travaille avec des méthodes qui sont souvent équivalentes. On travaille avec le vivant. Sauf que la différence, c'est que le génie écologique travaille pour le vivant, c'est sa finalité, la pérennité, la résilience de l'écosystème. Grosso modo, un paysagiste va avoir comme client, en général, donc un particulier, une entreprise, qui va dire comment est-ce qu'on peut aménager le vivant pour mon propre intérêt. Nous, notre client, c'est l'espèce vivante pour elle-même, qu'elle soit végétale ou animale. Donc même si les outils sont les mêmes, et même si bien évidemment il y a énormément d'interrelations et de points communs, et on a de plus en plus d'ailleurs un paysagisme qui se développe pour s'intégrer dans les écosystèmes, qui travaille sur ses fonctionnalités, les métiers, on a des interfaces qui sont récentes, et d'ailleurs l'Union nationale des entrepreneurs paysagistes est présente au salon, on échange avec eux, mais vous voyez c'est la finalité qui va être quand même différente. Et l'environnement, si vous voulez, moi c'est un terme que je ne comprends pas et que je n'utilise jamais. Parce que en tant qu'être humain, nous sommes avant tout vivants, intégrés dans le vivant. Nous sommes transpercés par la vie, immergés dans la vie, et la vie n'est pas notre environnement. C'est comme si un bébé dans le sein de sa mère disait « ma vie c'est l'environnement ». Mais entre le liquide amniotique, le cordon ombilical, les bruits, les émotions, etc. Vous voyez, et c'est vraiment ça, c'est une matrice en fait, la vie. Et le terme environnement a tendance à dire que il y a l'humanité qui vit avec sa technologie et sa philosophie, etc., et qu'autour, il y aurait des éléments qui nous environnent. Notre corps, je vous parlais des bactéries, mais il y a plus de cellules non humaines sur notre corps que de cellules humaines, et sans l'oxygène, ah oui, les arbres derrière moi qui me permettent de respirer et de vivre, je n'existerais pas. Voilà, donc l'environnement, c'est quelque chose de très global, qui va prendre d'ailleurs l'énergie, les déchets, l'eau, etc., et on a tendance souvent à dire la biodiversité, c'est un cas particulier. En fait, non. La seule chose qui nous intéresse, c'est la pérennité de la vie. Mais le réchauffement climatique, si ça ne déséquilibrait pas les écosystèmes, ça pourrait être parfois agréable. En fait, la question, c'est que ça déséquilibre les écosystèmes, dont les systèmes agricoles, qui sont la base de notre chaîne alimentaire. Et en fait, la biodiversité, la biosphère, c'est l'ensemble de toutes les finalités, finalement, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'environnement, le développement durable, etc. Donc voilà, c'est beaucoup plus englobant.
On est en train de te perdre.
Voilà. Allô, vous m'entendez ?
Oui, on vous entend très bien.
Ouais, c'est mon oreillette qui a bougé. Voilà, donc un des grands combats d'ailleurs de l'UPG et du Salon, c'est de changer le regard sur la biodiversité et le vivant en général. C'est pas quelques espèces protégées, c'est bien notre maison commune, qui s'appelle d'ailleurs l'oïkos en grec ancien, et oïkos, ça a donné le terme écologie, la connaissance de la maison commune, et l'économie, la gestion de la maison commune, oikos nomos. Donc, vous voyez la différence entre les deux, eh bien en fait, je pense que notre combat aujourd'hui, c'est de bien reconnaître la biosphère comme une finalité partagée, globale, universelle, dans laquelle va s'intégrer l'eau, les déchets, l'énergie, etc. Et l'indicateur suprême n'est pas une question de réduction d'impact, mais de bon fonctionnement et d'équilibre finalement des écosystèmes. Et c'est vraiment ça la finalité du génie écologique.
Et donc, c'est ce que vous venez de dire, c'est ça qui vous a motivé à vous engager dans ce projet de ce salon, à devenir partenaire fondateur.
En fait, le salon, donc, c'est un outil de communication et c'est essentiel. En fait, si vous vivez comme des cochons, il ne faut pas s'étonner de vivre dans une porcherie. Et nous, en tant qu'êtres humains, c'est exactement ce que l'on fait. On voudrait changer les conséquences sans jamais travailler sur les causes. Donc, c'est-à-dire que l'outil principal sur lequel on doit travailler, ce sont les modes de pensée et les modes de vie. Einstein nous disait, on ne peut pas résoudre un problème avec le mode de pensée qu'il a engendré. Eh bien, en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On se dit, je peux détruire des écosystèmes parce que je vais faire une autoroute, etc. Je vais compenser et ça fonctionnera pareil après. Ce n'est pas vrai. Il faut s'intégrer dans le fonctionnement des écosystèmes. C'est-à-dire que c'est un mode de pensée qui est différent. Et il est essentiel d'avoir ce témoignage des professionnels du génie écologique qui vont expliquer, en fait, d'être des ambassadeurs du vivant. C'est comme ça qu'on voit les choses, parce que la solution, et je suis assez confiant pour l'avenir, à partir du moment où on prend les bonnes décisions aujourd'hui, elle est bien dans la communication, dans l'éducation, dans la compréhension du vivant, dans une forme aussi d'humilité qu'il faut réacquérir, mais qui est très joyeuse et très positive. Donc le salon, il est indispensable, comme tous les autres outils de communication, comme votre émission en ce moment, de se dire, repartons de l'avant, non pas en ayant peur, mais en étant joyeux, parce qu'en s'associant avec le vivant, on a toutes les solutions, donc de réduction des déséquilibres, mais aussi d'adaptation au phénomène extrême lié au réchauffement climatique et qui est là, qu'on le veuille ou non, et quelle qu'en soit l'origine, il est là. Et donc le salon, il est essentiel sur cette question de mode de pensée, de compréhension, et puis surtout d'une espérance de se dire l'avenir nous appartient, quoi.
Alors, vous avez créé, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'UPGE en 2008. Où en est la filière aujourd'hui, 17 ans plus tard? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué?
Alors, tout a changé, hein. Si vous voulez, en 2002, moi, j'ai créé mon entreprise, c'était l'année du deuxième sommet de la Terre, du grand sommet de la Terre à Johannesburg, hein. C'est la fameuse phrase du président Chirac, notre maison brûle, nous regardons ailleurs. Mais à ce moment-là, le terme biodiversité était absolument inconnu du grand public. On commençait à parler de réchauffement climatique, et d'ailleurs, le terme génie écologique n'existait pas. Mon entreprise, c'était entretien du patrimoine naturel, donc c'est vraiment d'aller restaurer quelques petits éléments de nature ou des rivières. Et en fait, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais de manière spectaculaire, on a eu une accélération. Alors malheureusement, parce que les symptômes de déséquilibre des écosystèmes sont de plus en plus visibles, mais aujourd'hui, l'UPGE, nous avons 150 entreprises à peu près de toute taille, dans beaucoup de PME, TPE, mais nous avons aussi des grands groupes du BTP. Donc tous les majeurs d'ailleurs du BTP sont avec nous, hein, Vinci, Eiffage, Colas, etc. Parce que il y a un vrai travail de réaménagement de l'espace. Et une particularité de l'UPGE, c'est que nous sommes à la fois études et travaux. Donc avec une culture très large, la culture des bureaux d'études n'est pas celle des travaux, mais d'apprendre à travailler ensemble. Donc c'est un outil, je dirais, de politique globale. Et là, on est en pleine croissance. On a fait une étude l'année dernière, à peu près de 15 à 20% de croissance par an, avec tout ce que ça engendre comme complexité, hein, d'innovation, d'adaptation de la réglementation, de recrutement, de formation, etc. Alors je dirais, on peut se réjouir que la filière soit en essor, mais maintenant n'oublions pas que c'est parce qu'il y a des déséquilibres, et donc ça va continuer de toute façon. Et ce qui va accélérer de manière radicale, c'est deux éléments. C'est d'une part la partie du cycle de l'eau, avec les excès ou les manques d'eau, qui est une conséquence des écosystèmes, ça va être révolutionnaire dans les mois qui viennent. Et la deuxième chose, elle est liée à ça, c'est la cause agricole. Parce que objectivement, de faire de l'agriculture sans le fonctionnement des écosystèmes, c'est juste pas possible. Ça fait 4 milliards d'années d'expérience de la vie. On ne remplace pas le fonctionnement du vivant par des technologies ou des produits, quoi.
Est-ce que on peut dire que c'est les deux prochains grands défis que vous identifiez aujourd'hui? l'eau et l'agriculture ?
Tout à fait, les deux sont complètement liés et c'est bien ça. D'abord, nous sommes toujours une solution agraire depuis presque 8000 ans, donc depuis le néolithique. Et simplement, nous avons un peu externalisé l'agriculture parce qu'on le voit dans des boîtes de conserve dans les supermarchés, mais nous sommes dépendants du vivant et les deux sont liés, eau et agriculture. Et en plus, l'agriculture est la seule solution que nous ayons aujourd'hui d'adaptation aux phénomènes extrêmes, c'est-à-dire de recréer des paysages fonctionnel pour avoir des microclimats qui permettent d'avoir le cycle de l'eau, etc. Encore une fois, je répète, je suis très confiant pour l'avenir, il faut juste pas se tromper dans les choix que nous faisons aujourd'hui, qui sont des choix de société, des choix de citoyens, des choix d'entreprise, et ce sont les territoires qui ont la solution. En aucun cas Paris, encore moins Bruxelles, encore moins l'ONU, c'est sur nos territoires, et agriculture et eau, c'est ça à la fois le problème majeur, mais surtout la solution principale que nous avons aujourd'hui.
Et peut-être ajouter énergie, parce que sans énergie, pas d'eau, sans énergie, oui. Eau, pas d'agriculture, donc voilà.
C'est vrai.
En fait, l'agriculture est un moyen, en fait. L'énergie est un moyen, mais tout à fait. Oui. Et là, on a des vrais enjeux énergétiques, entre autres, de consommation, mais bon, c'est pas le sujet, quoi.
C'est vrai que sans énergie, on va pas bien loin. Patrice, ouais. Juste, vous êtes un engagé, vous avez même quitté votre entreprise en 2016, parce que vous estimiez qu'on ne peut pas juste réparer la nature si on continue à la détruire. S'il y a un message que vous voulez faire passer aujourd'hui aux personnes qui nous regardent, un message court.
Oui, c'est très simple. Une seule solution, la révolution.
Ça sent bien, ça.
Je précise tout de suite. Voilà. Je précise tout de suite. Alors, c'est pas celle-là. C'est précisément pour éviter cette révolution violente, c'est juste l'inverse. En fait, j'ai quitté mon entreprise sans aucune critique pour toutes les entreprises qui continuent à travailler sur la compensation. Mmh. C'est ma vocation particulière de dire on doit aller au-delà sur des solutions économiques. Quand je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est oikos nomos, donc des solutions de territoire. Et je me sentais davantage appelé sur de la conception, je dirais, d'ordre presque politique que uniquement technique. Mais il faut les deux, de toute façon. Quand je parle de révolution, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est un changement radical des modes de pensée et des modes de vie, qui doit se faire dans la paix, et je suis vraiment attaché à ça. C'est pour éviter la violence que nous commençons à avoir de plus en plus aujourd'hui dans le monde et en France. Mais c'est, quand je dis révolution, c'est un changement radical. C'est ça que ça veut dire. En fait, j'évoquais Einstein tout à l'heure, on ne change pas un problème avec le mode de pensée qui les a engendrés. Si on n'a pas cette évolution qui se fait et qui n'est pas la contrainte, qui, bien sûr qu'il y aura une forme de sobriété, mais je ne pense pas que ce soit dans la contrainte, c'est une compréhension du vivant. Et c'est ça qui évitera la violence. C'est ni la table rase, ni la révolte, ni la violence, c'est même complètement l'inverse. C'est toutefois une révolution, et un deuxième terme à révolution, quand la Terre tourne autour du Soleil, elle revient à son point de départ, on a un petit peu ça, c'est que nous avons quitté le fonctionnement du vivant, et il faut le réintégrer, mais tout en conservant notre technologie, entre autres parce que ça permet la médecine, l'espérance de vie, enfin, il y a beaucoup de choses très positives dans notre monde d'aujourd'hui, mais si nous quittons le fonctionnement du vivant, qui est basé sur la relation à la diversité, c'est le principe de la vie. Si nous quittons le fonctionnement du vivant, nous sommes morts. C'est logique, quoi.
Alors, Stéphanie, en tant qu'organisatrice du salon également, comment veillez-vous à ce que les priorités, contraintes et réalités de la filière du génie écologique soient bien portées dans les débats ?
Alors, moi, je serais un peu moins radicale de Patrice, mais c'est pour ça qu'on travaille aussi bien ensemble.
Vous êtes complémentaires.
C'est-à-dire que, effectivement, l'intégration du salon de la biodiversité et du génie écologique dans le salon des maires, c'était justement pour être dans une réconciliation. En fait, trop souvent, on a opposé les investissements pour la qualité de vie avec justement la préservation du vivant. Et du coup, on a beaucoup investi sur des technologies, sur des, si on regarde le siècle juste avant nous, effectivement, il a amené à un contexte aujourd'hui où on est très alarmiste sur la situation de la biodiversité dans le monde. Donc réconcilier ça et faire en sorte que les investissements et comprendre aujourd'hui que notre qualité de vie elle est dépendante de la biodiversité et de l'environnement. Excuse-moi, je continue d'utiliser ce terme, Patrice, même si ça t'irrite un petit peu les oreilles, mais en tout cas voilà, c'est ne plus opposer en tout cas ces sujets-là et que la modernité aujourd'hui, c'est effectivement d'être en capacité de faire avancer le progrès en réintégrant très en amont l'ensemble effectivement de la biodiversité dont nous faisons partie dans les cahiers des charges. Donc c'est effectivement ça que nous défendons sur ce salon. Nous avons la conviction forte que la politique, l'économique l'ensemble des actions sociétales combinées peuvent être en tout cas enfin, doivent être en tout cas réconciliables et qu'effectivement elles sont en faveur de la biodiversité et de la préservation finalement de notre du vivant et de notre vie à tous, puisque on est tous effectivement très très liés et c'est assez déterminant. Voilà, donc le rôle de ce salon là il est aussi de valoriser les experts qui sont souvent sur des filières un peu de niche, qui sont effectivement moins visibles que d'autres. Et c'est aussi le rôle de ce salon, c'est de leur donner la parole, de les rendre visibles aux yeux des collectivités, parce que souvent on s'est rendu compte qu'elles ne connaissaient pas ces solutions. Le génie écologique, c'est une notion qui est assez nouvelle, mais on ne savait pas effectivement que ça existait. Donc c'est aussi le rôle de ce salon-là, c'est de mettre la lumière sur ces experts et ces solutions qui sont très agiles, qui nécessitent pas non plus des investissements énormes. Hein. On est souvent sur effectivement de l'ingénierie du bon sens, avec des techniques qui sont très accessibles. Et je le dis parce que préserver notre biodiversité et avoir des projets justement respectueux de l'environnement, ça ne nécessite pas forcément des investissements massifs. C'est simplement dans la planification du projet, dans la façon dont on aborde les solutions, une autre manière, et c'est peut-être oui, ça sûr. Qu'il appelle la révolution, Patrice.
Oui, c'est un changement des habitudes, en fait, de cette façon de voir les choses.
C'est moi, Stéphanie.
C'est un mode de pansement, un mode de pansement, un mode de en tout cas de pensée du projet qui est différente, et c'est ça qui est nouveau.
C'est exactement ça. Tout à fait.
Apprendre à se projeter différemment. Le fait que le salon soit organisé conjointement avec le Salon des Maires, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un atout hein, pour justement toucher ces décideurs territoriaux. Patrice, vous avez dit un jour que 80% des urbains sont déconnectés du vivant. Les collectivités locales ont un rôle clé à jouer pour recréer justement ce lien avec la biodiversité. Quel est le message que vous aimeriez qu'elles comprennent justement ? Alors, il y a des collectivités qui sont quand même plus en avance que d'autres hein, sur ce sujet-là.
Tout à fait, mais c'est ce que j'évoquais sur la question du mode de pensée, hein, la continuité de la communication, de l'éducation, etc. En fait, nous avons effectivement 80% d'urbains dans nos sociétés modernes, et donc avec une vision, une relation au vivant qui est très très limitée. J'évoquais l'agriculture tout à l'heure, elle est réduite aux boîtes de conserve que nous avons dans les écosystèmes. Nous organisons beaucoup d'immersion en nature et de mise en valeur de justement ces fonctionnalités. La solution, elle n'est que sur le territoire. Et je pense que le côté radical, il est presque là, c'est de décentraliser. Alors, je parle pas de politique générale, hein, je ne rentre pas du tout dans ces débats-là, mais je suis vraiment sur la gestion du vivant, que ce soit les citoyens et les entreprises qui se l'approprient, et plus on aura d'initiatives territoriales, plus on trouvera des solutions qui sont complémentaires les unes des autres. Et là, c'est bien le rôle de l'élu de dire, la solution, c'est moi qui l'ai. La solution, c'est moi qui l'ai sur mon territoire, avec mes concitoyens, avec les entreprises du territoire, c'est déterminant.
On vous entend plus très bien. Je crois que vous avez mal remis votre.
Voilà, c'est bon comme ça.
C'est bon, c'est mieux.
C'est mieux. Voilà. Voilà. Surtout, je pense que le rôle fondamental des élus, c'est de sortir du défaitisme, de la peur, même de tout ce qui peut aller avec, en se disant, mais en fait, les solutions, on les a. Ce ne sera pas pareil qu'avant. Bon, y a des choses qui se sont passées, encore une fois, les changements climatiques, mais ensemble. Sur le territoire, nous avons les solutions. Ne comptons pas sur l'aide extérieure parce que nos anciens, depuis le néolithique, ont aménagé leur territoire dans la diversité qui fait la richesse de notre pays et la richesse des écosystèmes. Et là, il y a une question de gouvernance qui est fondamentale. Et aussi, je dirais qu'on parle de bien commun, comme le nom l'indique, ce n'est pas l'intérêt général. C'est une forme de vérité universelle qui doit être capable de nous unir au-delà des divergences politiques et idéologiques qui font la richesse de nos débats, certes, mais qui, dans le domaine du vivant, en fait, il n'y a pas tellement de débats précisément. La vie, c'est basé sur le local, c'est basé sur la diversité et la relation, donc l'hétérogénéité, c'est le truc vraiment essentiel. Et nous-mêmes, en tant que consommateurs, nous déterminons la forme du paysage qui nous entoure. En fonction de ce que nous allons faire, de ce que nous allons acheter, etc. Donc, ce sont les élus territoriaux qui ont la solution. Et comme je l'évoque pour la troisième fois, je suis confiant sur l'avenir. À partir précisément, on retrouve ce lien territorial qui est un lien charnel au vivant et qui passe à la fois par la contemplation et par la relation directe avec le vivant. Et là, c'est dans les mains des élus. Il n'y a pas qu'eux, évidemment, hein, mais ils ont un rôle majeur, quoi.
des décideurs politiques, en tout cas. Alors, justement, quelles seront concrètement les solutions, les retours d'expérience qu'on pourra trouver lors de cet événement, que pourront trouver les élus? Est-ce qu'on peut parler du programme un peu plus en détail? Alors, j'ai noté qu'il y avait deux espaces phares, donc on l'a dit, la serre et l'atelier. Est-ce qu'on peut développer un petit peu ce qu'on va retrouver côté exposant, côté...
Alors, sur l'exposition, effectivement, on va avoir de nombreux acteurs du génie écologique, hein, donc des bureaux d'études, des entreprises de travaux, mais également des entreprises qui proposent justement des produits pour permettre justement des aménagements durables plus adaptés, respectueux des territoires, c'est-à-dire qui ne vont pas, en tout cas, se mettre en opposition avec l'expansion de la nature en cohérence avec son territoire, c'est-à-dire son sol, son climat, son usage. Ça, c'est important. On va également avoir des entreprises du paysage, puisque les paysagistes sont aussi des partenaires traditionnels des collectivités. C'est souvent eux, justement, qui sont investis de la mission d'aménagement, d'entretien, notamment des parcs et jardins, mais également... de tous les terrains sur lesquels les collectivités, en tout cas, entretiennent la nature. Ce sont également des acteurs de l'eau. Le sujet de l'eau, Patrice le rappelait, est un sujet important, mais les acteurs de l'eau, et c'est aussi le sujet, c'est quand on parle de biodiversité et de génie écologique, on parle de tous les milieux et de tous les éléments qui permettent, donc on n'est pas juste sur la surface, on est aussi sur les sols, sur l'eau, sur l'usage de l'eau, sur aussi la gestion des inondations et de leur impact, parce que dans ces sujets-là, il y a aussi toute la thématique du risque qui est importante, donc ce sera aussi un sujet très fort qui cette année en tout cas va être beaucoup plus intégré que l'année dernière, puisque on avance aussi sur la programmation. Vous avez également évidemment les acteurs du vivant, des associations sur la préservation des oiseaux, sur les sujets effectivement de on aura aussi l'association des animaux sauvages qui seront là, donc en fait on élargit le spectre des participations, donc vous allez avoir des solutions techniques et puis des associations qui sont aussi qui œuvrent sur les différents territoires à la préservation de la biodiversité. Et puis on va de la serre à l'atelier, nos deux espaces de programmation, à la fois avoir des débats entre acteurs politiques et économiques, pour effectivement aussi orienter les prochains investissements et les réglementations en la matière pour qu'elles soient en faveur et qu'elles soient accompagnantes. Je parle pas de contraintes parce qu'il y a beaucoup de sujets de contraintes. On va aussi effectivement donner la parole au monde agricole, puisque sur ce salon on n'oppose pas écologie et agriculture. Le secteur agricole est très fortement représenté sur le salon des maires, et pour nous c'est un partenaire essentiel de ce salon avec lequel nous travaillons, et je tiens à le dire positivement. Donc c'est souvent dans le débat public où on oppose ces sujets-là, mais en fait les agriculteurs sont les premiers acteurs de la préservation de la biodiversité sur le terrain, avec les élus, parce qu'ils sont en local, confrontés du matin au soir à ce sujet, et c'est leur matière première, ils sont très, très, très présents. Voilà, et puis dans les ateliers, on va être très pragmatique, on va parler des projets, des solutions, on va partager des choses qui ont été mises en place et qui fonctionnent. Et ça, c'est important, parce que sortir d'un salon comme ça, il faut que ce soit utile, il faut que vous partiez en fait avec un bagage, avec des outils, avec de nouveaux partenaires, et que ça vous donne la motivation de poursuivre. Et c'est ça effectivement aussi qui est réjouissant, c'est ce que disait Patrice, c'est pour ça qu'on est optimiste, parce que pendant ces trois jours-là, on voit essentiellement des acteurs qui sont désireux d'avancer sur les sujets et pas de reculer ou de rien faire. Donc quand on participe au Salon des maires, c'est qu'on est dans l'action, c'est parce qu'on a envie d'avancer, et c'est ça qui est voilà qui crée l'optimisme de Patrice, et c'est ça qui me rend aussi optimiste sur ces sujets.
Alors la stratégie nationale biodiversité 2030 vise à stopper puis inverser l'effondrement du vivant. Est-ce que ce salon justement ça peut être un accélérateur pour atteindre cet objectif?
Patrice, tu veux répondre?
Oui, là je trouve, j'ai un petit peu un handicap, mais je trouve que c'est quand même pas très sérieux comme déclaration. Techniquement, on nous a déjà fait le coup en 2002, mm-hmm. en disant en 2010, on va stopper, voire arrêter la réduction de la biodiversité. Entre les deux, ça a accéléré. Moi, je veux bien, mais il faut mettre les moyens en face. Et là, les moyens, je vous l'évoquais tout à l'heure, c'est un chemin qui est vraiment radical. Si on se dit, on va continuer à vivre comme des cochons, comme j'évoquais tout à l'heure, et on va avoir des résultats, ce n'est pas possible. Là, aujourd'hui, je ne vois pas l'engagement suffisamment fort, mais ça peut venir, puisque je vous ai dit que j'étais confiant. Mais si on veut y aller, ça demandera cette forme de radicalité qui, je répète encore une fois, qui est une radicalité positive et surtout bienveillante.
Ah, on vous a perdu, Patrice.
On vient de te perdre.
Ah, non, le salon, allez-y, reprenez le salon.
Attendez.
Je pense que ce que voulait dire Patrice, c'est qu'effectivement, le salon, c'est aussi une armée de fourmis, c'est-à-dire que, quelles que soient les grandes annonces ou les grands sujets, effectivement, les contributions de l'ensemble des acteurs, les élus, les entreprises, les associations, voilà, permet aussi d'influencer, nous l'espérons, les stratégies politiques à venir, et c'est aussi le rôle de cette prochaine édition.
Alors Patrice, je vous en prie...
Vous m'entendez?
Oui, ça y est. Ouais.
Ouais, ouais. Oui, c'est tout à fait. Merci Stéphanie. On se connaît suffisamment pour qu'elle puisse terminer mes phrases. Oui, mais c'est exactement ça. Et je pense, je reviens d'ailleurs à ce que j'évoquais tout à l'heure sur la responsabilité. Je vais pas faire de commentaires sur la solution politique, la situation politique actuelle. Mais n'oublions pas que, en fait, l'État est au service des citoyens. Donc, ayons un peuple ou des peuples de France qui vraiment sont sur leur territoire, et on va donc faire émerger des solutions et demander à nos gouvernants de trouver des solutions. Par contre, là aujourd'hui, oui, 2030, moi je ne demande que ça, mais c'est pas parce qu'on fait des déclarations d'intention que ça va le faire. Comme l'a évoqué Stéphanie tout à l'heure, la radicalité ne peut être justifiée que si elle est suivie de faits et non pas d'idées. C'est ça là, ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est d'avoir des idées radicales et factuellement ça ne marche pas. Donc là, oui, la SNB c'est fondamental. On a d'ailleurs une feuille de route du génie écologique qui est sortie il y a quelques mois, qui est très intéressante. Il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup d'engagement des territoires et des élus, mais par contre, il va falloir mettre un petit peu le booster si vraiment en 2030, là aujourd'hui, on n'est pas du tout passé, c'est même pas pour ralentir, on accélère encore l'érosion des écosystèmes. Je répète une fois de plus que je suis confiant.
Ce que tu dis, c'est que le salon va donner l'énergie justement à ces stratégies de se confirmer.
Et voilà. Et puis surtout d'arrêter de dire ça va pas, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Voilà ce que nous allons faire. Maintenant, donnez-nous les moyens de le faire, à nous les territoires, et les solutions vont apparaître, parce que si on s'associe avec le vivant, les solutions vont venir. Le vivant, c'est 4 milliards d'années d'expérience et d'évolution, et donc on va trouver les solutions. Mais par contre, voilà, c'est vraiment les politiques, celles de 2010 ou celles de 2030, les déclarations d'intention ne suffisent pas et ça demandera de l'effort, mais c'est comme un sportif qui veut faire un marathon. On ne gagne pas un marathon sans faire des entraînements réguliers. Et là, aujourd'hui, on a un peu tendance à dire on va continuer à fumer, à boire, à rester devant notre télévision et on espère qu'on sera en bonne santé. En fait, non, il y a un moment, il va falloir faire un régime et être en bonne santé, je vous rappelle que ça fait du bien, et c'est ça quand je vous parle de révolution positive, c'est qu'on sera, je pense, beaucoup mieux en termes de relations avec la Terre, relations avec la vie, et surtout de relations les uns avec les autres. Mais là, il faut se donner les moyens de la SNB, objectivement. Je dis ça à titre personnel, hein, je ne parle pas au nom de l'UPGE, je n'ai pas consulté mon bureau pour dire ça, mais objectivement, je pense qu'ils seront d'accord avec moi qu'on n'y est pas vraiment dans les moyens qui sont mis en place. Quoi.
Eh bien, merci à vous deux, en tout cas, pour ces échanges passionnants. Et on sent que vous êtes passionnés, hein, Patrice, Stéphanie. Ça fait du bien d'entendre ce genre de discours. Alors, pour récapituler, rendez-vous du 18 au 20 novembre à la Porte de Versailles, Paris Expo, Porte de Versailles, pavillon 3, pour la deuxième édition du Salon de la Biodiversité et du Génie écologique. C'est un événement donc qui est organisé en partenariat avec l'Association des maires de France, les éco-maires et donc l'UPGE avec le soutien de l'UNEP, vous l'avez dit tout à l'heure, et l'Union Nationale des Entreprises du Paysage, hein, l'UNEP. L'entrée est gratuite, mais nécessite une inscription sur le site salonbiodiversité.com, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Voilà, tout simplement. Eh bien, on espère vous y voir nombreux. Merci à vous deux. Et nous, on se retrouve très prochainement sur nos antennes Radio Inumo, Radio Territoria.